Parfait, Amoud Alev. Ça commence par une Mishnah en bas de Rav Zayin Amoud Bet. Le sujet, selon le Mefaresh, donc Rashi ici, c'est rattaché à la Mishnah précédente, Nidre Onsin. Parce que là, encore une fois, le Neder, il est fait parce que on est dans un cas de force majeure. On veut sauver quelque chose, comme on va le voir. Certains disent que notre Mishnah parle de sujets presque indépendants de tout ce qu'on a vu jusque-là dans ce Perek. On a vu dans ce Perek différents types de Nedarim qui sont nuls, comme on avait vu, mais certains d'entre eux, on avait dit que ce n'est pas recommandable. Il fallait éviter de les faire malgré tout. Et là, on nous parle de Nedarim qui vont être nuls, mais que c'est permis de faire les Khatrila dans certaines situations. Alors, quels sont ces Nedarim ? On nous raconte, par exemple, on a affaire à un Harag. Harag, un tueur. Haram, c'est un braqueur. Pas un braqueur. Harag, c'est un braqueur. Haram, c'est un pilleur. Il n'est pas pour autant tueur. Il n'est pas assassin, mais il est voleur. Morsin, ce sont les percepteurs. Alors, Nodrin, la Haragin, vela Haramin, vela Morsin. On a le droit de faire des vœux pour dissuader le Harag ou le Haram ou le Mohes concernant des pérotes qui veulent nous ravir. Chez Teruma, en faisant en sorte de, en le faisant croire que c'est de la Teruma. Et c'est censé le dissuader. Pourquoi ? Nous dit le Roche, ce brigand ou ce percepteur, il est juif. Et il est juif, peut-être que c'est un tueur, peut-être que c'est un voleur, mais il mange quand même kasher. D'accord ? La Teruma, il ne la mangera pas s'il n'est pas Cohen. Donc comment je vais lui faire croire que c'est de la Teruma ? Ça va le dissuader, il ne touchera pas à ça. Et c'est tout le but. Donc par un éder, je vais le faire croire que c'est une terouma. Quelle est la formulation de ce vœu ? On verra dans la Gemara. Et c'est permis. Parce que je suis là pour sauver quelque chose, c'est permis. Et le vœu ne sera pas effectif, c'est ça le chidouche. Le vœu n'est pas effectif. Pourquoi ? On va voir dans la Gemara, ce sera mieux compris avec le complément de la Gemara. Mais pour l'instant, c'est ça qu'il faut entendre. Que c'est pas seulement le neder est nul, c'est même permis les khatrila. Avalbishon la teruma, bien que réellement ce n'est pas de la teruma. Ou bien je veux lui faire croire par un vœu, shen shel bet ameler, que ses fruits sont le patrimoine du trésor public, du roi. Ça appartient au roi. Et donc gare à celui qui touche à ça. Ou bien ça avait été attribué par le roi peut-être. Et je comprends que dans ce genre de situation, personne n'a le droit de me le ravir, ce serait grave, de me ravir ce que le roi m'a attribué. Donc les gens n'y toucheraient pas, ça le dissuaderait, ce harag, ce haram ou ce mohes. Eh bien, il veut faire croire que c'est shel bet ha-melech, afalpi she'enan shel bet ha-melech, alors que ce n'est pas le cas. C'est huit nodrin et chatrila, c'est permis. Maintenant, Bet Shammai et Bet Hillel sont machloket à différents niveaux sur cette règle. On peut utiliser ce moyen de dissuasion par des nedarim, mais pas par la chevoua. On n'a pas encore vu quelle est la formulation du neder en question. On va la découvrir dans la Gemara, mais cette même formulation par chevoua, ça ne passe pas selon Bet Shammai, sachant que chevoua est plus ramour que neder. Ou Bet Hillel omrim af bishvoua, même pour une chevoua, on a cette dérogation. Quand quatre forces majeures pour sauver, c'est bien, c'est permis de faire croire quelque chose par le biais d'une chevoie. Shammai Yomrim, Loiftarlo Beneder. Ou Betile Lomrim Afiftarlo. Mais Shammai dit, c'est pas lui qui doit initier la démarche du Neder. Il faut que ça vienne de l'autre côté. Si le brigand, il te dit, ben jure-moi, fais-moi un Neder, fais un Neder. Et par lequel tu vas me démontrer que ça, c'est pas, c'était Rouma ou c'est chez le Betameler. Je te crois, je ne touche pas. Là, je peux faire comme il me dit. Mais si ce n'est pas lui qui suggère de faire un Neder, selon Bet Shammai, ce n'est pas à nous de lui proposer, même qu'on est sur la défensive, on veut sauver nos biens. Bet Hillel disent, Af Yiftachlo, on peut même initier la démarche de nous-mêmes, de lui dire, écoute, tu sais, tu ne me crois pas que c'est de la Terouma, tu ne me crois pas que c'est chez le Betameler, je fais tel vœu. Et ça va te convaincre. C'est aussi, même ça, c'est inclus dans ce éther, dans cette dérogation selon Bet Hillel. Donc il y a deux décalages entre Bet Shammai et Bet Hillel. D'une part, est-ce que Shevoua, Et en plus, Ramour que Nedarim, c'est aussi toléré ou non? Et est-ce que je peux, moi, initier la démarche du Neder pour dissuader le brigand? Autre divergence. Betchamay Omrim, Bemashu Mediro, ou Betilel Omrim, Afe Mashéno Mediro. Mashu Mediro, ça veut dire ce que le Anas veut me faire. Faire comme veut, ça j'ai le droit, puisque c'est lui qui a initié, j'ai le droit, même d'après Beth Hillel, mais je dois pas en rajouter. Et Beth Hillel disent, ah, ma chéno madiro, même ce qu'il me demande pas d'inclure dans mon néder, si je l'ai inclus, le néder est nul. Ketzan, comment est le cas? Amarlo, emor kona mishtine nitli. Le brigand, il dit à ce juif, fais le vœu que ta femme est la surabe ana, elle peut pas profiter de toi. Si jamais ces fruits sont pas terouma. Amar, et lui, il a dit d'accord, mais plus encore. Konamishti ou banay, nenini. Il a rajouté banim. Dans le vœu, il a inclus autre chose que le brigand n'a pas demandé. Alors, Betchamayim brimish tomuteret banam asurin. Ou betile lambrinulu vailum mutarin. Betchamayim dit, puisqu'il ne m'a pas demandé d'inclure banim, ça c'est un vœu, initiative personnelle. Eh bien, ce vœu, il est effectif. Les enfants pourront plus profiter de leur père, sauf à Tarat Nedarim. Et d'après Beth Hillel, Elouvainu Moutarin, le vœu n'a pas de chalout, ni pour sa femme, ni pour les enfants. Parce que tout ça, c'est dans la démarche de vouloir sauver ses biens. Et donc, on est dans le cadre de cette règle de la Mishnah, que le vœu, il est nul. Voilà. Donc, il y a des raisons, encore une fois, pourquoi ce vœu est nul. Il y a plusieurs niveaux dans le din de la Mishnah. D'abord, pourquoi le vœu est nul? Ça, on va le comprendre avec la Gemara, comme j'ai déjà dit. Et après, deuxième niveau, c'est que c'est même permis les chatrila. On a vu des cas de nédarim nul, mais ce n'était pas permis. On lui faisait tout un lavage de cerveau pour lui dire « Attention, ne refais plus ce nédar, etc. » Là, non, c'est permis, puisque c'est pour sauver des biens, etc. Voilà. Non, Betchama, ils disent... Si lui, il a rajouté quelque chose, ben c'est une initiative personnelle, c'est ton vœu personnel, on ne te l'a pas demandé, tu ne l'as pas fait pour sauver des biens, ça, c'est un vrai vœu. Et bien, ils disent, non, cette partie aussi, tu l'as fait dans la même démarche avec l'autre partie, c'est un tout, et donc, ça n'a pas d'effet, le vœu n'est pas khal du tout. Dans ce dernier cas, certains mépharchim diront que Bethilel n'est pas en train de dire que c'est permis le ratrila. Puisqu'ils ont statué Elou Vailou Moutarin. Après coup, le constat, c'est que ben, sa femme, elle peut profiter de lui et ses enfants aussi. C'est ça qu'on se positionne sur le Bedi Avad. Qu'en est-il? Faut-il tenir compte du vœu ou non? Bethilel disent que non. Et Betchama disent que oui. Mais est-ce que c'était un éder à faire de rajouter les banim qu'on t'a pas demandé? Ça, non. Même Bethilel est d'accord que les ratrila, faut pas. Tandis que plus haut, au Beth Hillel, ils sont frôlés avec Beth Shammah. Et si les Khatrina, j'ai le droit de faire un vœu, si je peux faire une chevoie, ou si j'ai le droit d'être poté Arlo Beneder. Là-bas, c'est même les Khatrina que Beth Hillel permettent.
Si déjà, tu as le droit de faire un Neder non demandé, alors a fortiori, un vœu demandé, on en rajoutant un peu. C'est-à-dire que c'est moins grave de faire un vœu demandé par le voleur et d'en rajouter un peu que de faire un vœu à totalement de sa propre initiative.
J'entends. Je crois que cette question, c'est celle du Roche. Et que, si j'ai bien compris la réponse, c'est que quand il ne m'a pas demandé de faire un vœu, mais là je suis dans l'impasse, je vais devoir céder les objets, il va me les prendre. Alors là, Beth Hillel dit, j'ai une solution par le vœu, c'est toléré. Mais quand lui, il initie la démarche du vœu, mais il se contente d'un vœu partiel, et moi j'en rajoute, c'est complètement inutile. Pour sauver mes biens, ça me suffisait de faire le vœu qu'il m'a demandé. Pourquoi j'en ai rajouté? Là, c'est moins évident. D'accord. D'ailleurs, c'est même sur les ratrila, comme on a dit. C'est certainement ça la raison. Alors, on aurait pu dire que dans les mains, c'est... Ouais. Bon, faut revoir de plus près. J'ai pas bien vu le roche. Je crois que le roche y répond, mais faut revoir. C'est le monagmara avait un manche moelle. Dina de malchuta, Dina. Mais pourtant, Shmuel avait dit qu'il y a un principe, que la loi du pouvoir, c'est la loi. Ça fait office de loi. Même pour nous, c'est ça que ça veut dire. Pour la Torah, la loi locale fait référence. Donc on doit se plier aux lois locales. Bien sûr, concernant les dîners mamonot. Ça ne concerne pas les règles de cache-route, par exemple, ou de n'importe quoi qui touche à la religion. Le pouvoir n'a aucune emprise sur notre religion, mais par rapport aux règles de mamonot, alors là, la loi de Dina de Malchuta est contraignante. Et donc, si par exemple, il faut payer des impôts, puisqu'on a parlé du Mohes, c'est un percepteur qui perçoit les impôts au nom du pouvoir, et donc, moi je veux lui échapper en faisant un vœu. Et on me permet de faire un vœu qui est finalement un leurre, qui n'est pas un vrai vœu, qui sera nul, et ce procédé est toléré. Alors qu'on me tolère cette faveur quand je suis face à un harag ou un haram, un tueur ou un pilleur, je veux bien, parce que je défends, à juste titre, mes biens. Mais si je suis face au percepteur et que la loi du pays est contraignante, ils m'ont mis, voilà, je dois payer tant et tant de taxes, et moi je veux me dérober, c'est sûr qu'on ne va pas me tolérer de faire un éder qui est fictif pour me dérober. Et donc, comme on a dit dans la Mishnah, que me mochès aussi, Amar Avchinen Amar Avkan Amar Shmuel, les mochès shen lo kitzva. On parle d'un percepteur qui n'a pas de kitzva, il vient, il réclame ce qu'il veut. Ce n'est pas le trésor public a fixé le montant des impôts à temps et temps. Dans ce cas-là, c'est réglo. Mais là, ce n'est pas le cas. Il vient et il prend selon son goût. On parle d'un mochès qui se revendique de lui-même, mochès. Et donc, il n'est pas autorisé par le pouvoir en place. Et donc, c'est pourquoi ce n'est pas contraignant. Il n'y a pas ici d'Ina de Malchuta. J'ai le droit de me dérober par ce procédé, comme la Mishnah nous l'a dit. Mais en temps normal, effectivement, puisque d'Ina de Malchuta d'Ina, on n'a pas le droit de faire un éder fictif pour se dérober, bien que on a le droit de ne pas payer l'impôt. Parce que Tosfot nous dit, c'est rapporté dans l'Oran, que même s'il y a un din de Dina de Malchuta d'Ina, mais si je ne paye pas, ça s'appelle que je suis mafkia l'alva. On n'a pas le droit de voler le goy, mais mafkia afkat alvato, c'est permis. Ne pas restituer l'emprunt, c'est permis. Sauf s'il y a un risque de chilul Hashem. Mais sinon, si c'est sans ce risque, c'est permis. Et là aussi, ne pas payer l'impôt, c'est comme afkat alva, c'est ne se dérober de ce qu'on lui doit. Mais par rapport à la Gemara, c'était un problème, puisque lui, il veut se dérober en faisant un éder fictif. Non, on ne te permet pas d'utiliser ce procédé, que si c'est pour défendre quelque chose de manière légitime. Tu dois rien. Alors là, d'accord, tu défends tes biens par le moyen d'un éder fictif. Mais si tu dois réellement, après, tu as le droit de te dérober, c'est ton problème. Mais tu dois, tu n'as pas emprunté ce genre de moyen pour te dérober. Tu dois céder, tant pis, tu ne pourras pas faire le néder. Ça, c'est ce qui est convenu. Donc, notre Mishnah parle nécessairement de cas particuliers, comme la Okimta 1 ou 2. Maintenant, ce principe de Dina de Malchuta, après l'Oran au nom de Tosfot et bien d'autres Ishonim, ça repose sur l'idée du droit au sol. Que si je réside dans un pays, alors le roi, il est reconnu comme propriétaire du territoire. Territoire national appartient au roi. Et à ce titre, si je veux résider ici, je dois me plier aux règles. Il peut me taxer tant et tant par an, etc. Si c'est des règles bien définies, comme on a dit, ce n'est pas des abus, etc. Alors on doit se plier. On est redevable. C'est Dina de Malchuta. Parce que sinon, si vous voulez, il pourrait nous mettre dehors. Et comme il peut nous mettre dehors, ça veut dire qu'il a ce levier pour nous contraindre à payer. Et donc, c'est pourquoi il y a un din de Dina de Malchuta. Par contre, en Eret Israël, d'après ses Rishonim, il n'y aurait pas Dina de Malchuta, comme ça dit le Ran au nom de Tosfot. Parce qu'en Eret Israël, chaque juif a une sorte de baloute sur la terre. La terre n'appartient pas au roi, même si c'est un roi juif. Et donc, il n'y a pas le din de Dina de Malchuta Dina, d'après ses Rishonim. Après, il faut voir dans la halakha et surtout, il faut voir par rapport à notre époque. Je crois que même si les avis sont divergents sur la question, il y a des rishonim qui ne sont pas d'accord. Pour eux, le motif de Dina de Malchuta, ça tient d'autre chose. Ça tient du fait que normalement, les citoyens d'un pays se plient aux exigences du pouvoir en place. C'est comme ça. Et donc, s'il y a des règles, c'est convenu qu'on les applique et c'est contraignant. Et donc, comme ça, c'est écrit dans le Rashbam. Et je crois que d'après cette logique, ça ne change pas. Que ce soit Eret Israël ou Chutz La'aretz, ça ne change pas. Et donc, il y a des avis qui ne sont pas d'accord avec Tosfot. Et malgré tout, est-ce que de nos jours, il y a le din de Dina de Malchuta? C'est encore à voir. Ce n'est pas du tout évident. Même d'après ces avis. Mais il faut voir ça dans les poskim actuels. On avance. Shen shel bet ha-meler, vafal pi shen shel bet ha-meler. Voici, fait un vœu que ça appartient au roi, même si ce n'est pas le cas. Erinadar, comment il a fait ce vœu? Qu'ils sont terouma alors qu'ils ne le sont pas, ou qu'ils sont shel bet ha-meler alors qu'ils ne sont pas. Ce n'est pas un vœu. Un vœu, c'est je m'interdis un objet par un issour neder. Mais je fais un neder que ça appartient au roi, ça rime à rien. Je fais une chevoie que ça appartient au roi. Une chevoie, ça passe même sur quelque chose qui n'est pas objet. Je jure sur un objet, sur son statut, sur un fait, que ça appartient au roi. Mais un neder, ça prend que sur un objet. Là, je ne suis pas en train d'affecter un objet par un neder. Je suis juste en train de dire, neder que ça appartient au roi. Ça rime à rien. C'est un neder qui est nul. D'où la question, comment il a formulé son vœu pour que ce soit quand même un vœu? Et que le chidouche de la Mishnah, c'est qu'on a le droit de faire ce vœu malgré tout. Amarav amram amarav, beomer yasru perot haolam alay, imenan shel bet ha-meler. Il a dit, je m'interdis tous les fruits du monde, si ces fruits que j'ai là ne sont pas au bet ha-meler. Donc il a fait un vrai vœu, qui concerne des perotes desquelles il va se rendre interdit l'usage par neder. Mais c'est ça qui va authentifier que quoi? Il a dit, voilà, tous les perrots du monde, je ne toucherai plus si ces fruits-là, ils ne sont pas à Shel Bet ha-meler. Qui va de Marias Ruit Seru, allez, Kol Pir Alma. La Gmaral demande, mais dans ce cas-là, dès qu'il a dit Yasru, ben, ils sont devenus Asurim. Tous les perrots du monde deviennent Asurim. Il a fait un vrai vœu. Qu'est-ce qui fait que le vœu n'est pas effectif? Bon, on est bien d'accord qu'il l'a fait parce que dans une démarche de sauver ses biens, face à un brigand, tout ce qu'on veut. Mais finalement, il a quand même prononcé un vœu. Pourquoi le vœu n'est pas appliqué, n'est pas en vigueur? Réponse, Bohomer Ayom, on parle qu'il a dit aujourd'hui, je m'interdis pour une journée tous les fruits du monde. Si cette production-là, elle n'est pas au roi, ou elle n'est pas terrible. Et donc, ça convainc le brigand, puisqu'il est bien, le brigand, il se dit, je ne vais pas m'interdire de profiter des perrottes en tout genre et éternellement, juste pour sauver ça. J'ai réussi à le convaincre, il ne va pas toucher. Dit la Gemara, mais si j'ai fait le vœu comme ça, Ide Amarayom, l'homme kabel mine moches. Si j'ai précisé dans le vœu, je me prive que d'un jour. Un jour, c'est pas grand chose. On peut tous se priver des perrottes à Olam pour un jour. Et donc, c'est pas convaincant vis-à-vis du moches. Et pourquoi alors? Comment tu dis que c'est ça la formulation du vœu dans la Mishnah? Ça peut pas être ça. C'est pas ça qui va le convaincre. Réponse.
Yasru, c'est un lachan neder.
Comment?
Yasru, c'est un lachan neder.
Oui. Réponse. Beomer, belibo. On parle qu'il l'a pas dit expressément. C'est dans son cœur qu'il pense. Hayom. Le hayom, entre guillemets, il l'a pas dit verbalement. Il l'a dit dans son cœur. Ou motiv isvatav sta, mais quand il formule le vœu, il le dit sans précision de l'échéance. Il ne mentionne pas ni un jour ni l'olam, il ne dit rien. Alors, afalgav desviralan dvarim shebalev enam dvarim, bien qu'on a un principe que dvarim shebalev, c'est. On n'en tient pas compte. Les gabé onsin chané, dans cette situation d'onsin, c'est différent. C'est quoi dvarim shebalev? Si je fais un vœu qui s'entend d'une manière, j'ai beau dire, mais moi je pensais autrement. Mon intention était différente. On détermine la nature du vœu selon ce qui a été dit et non selon ce que j'aurais pensé au même moment. La pensée du cœur ne fait pas le poids avec la parole. C'est ce qui a été dit qui est retenu. Maintenant, ça, c'est uniquement lorsque la pensée, elle n'est pas convenue d'avance. Mais si cette pensée, elle est convenue d'avance, comme un homme qui est en cas de force majeure, il s'agit de sauver des biens, alors il a beau ne pas l'avoir dit, c'est comme s'il l'a dit. Le hayom, je m'interdis les perot à olam, pour une journée. Le hanas ne l'a pas entendu, il ne sait pas que moi j'ai l'intention que pour un jour. Mais le neder n'a d'effet que pour un jour. Alors on n'a pas dit que le neder a aucun effet. Il a un effet, comme la Gemara l'a conçu. Sauf que moi j'ai limité un jour mon vœu. Et lui il va croire que j'ai fait un vœu pour toujours parce que je n'ai pas précisé d'échéance. Je dis Asru perot kol haolam alai. Et quand quelqu'un dit ces mots, en général, ça veut dire de manière illimitée. Sans avoir eu à dire Léolam, ça s'entend Léolam. Mais ça, c'est en temps normal. Mais en cas de force majeure, dans cette situation, tout homme serait tout à fait dans cette démarche de sauver. Alors, même sans préciser le Hayom, il est convenu d'avance. Et donc, quand il fait son vœu Yasroala, et ça veut dire pour un délai très bref, il peut penser pour une demi-heure, il peut penser pour une heure. Un jour. L'idée, c'est que dans sa tête, il limite le vœu à très peu de temps. Donc le vœu sera effectif, ce petit délai. Et après, voilà. Et même que ce vœu, c'est un vœu qui sera finalement sans trop d'incidence, etc. Et que je fais un vœu presque levatala. Je n'ai pas l'intention de m'interdire, ce n'était pas le but. Et on nous dit dans la Mishnah que si c'est pour sauver des biens, c'est l'echatrila permis de faire ce genre de vœu. Donc en tout cas, on a compris, et le chidouche de la Mishnah, c'est que c'est permis de faire ce vœu, d'user de cette solution, et que le vœu, c'est bien un vœu, parce que rien ne peut annuler ce vœu, sauf, j'ai bien dit que des pérotes seront interdits. Ça, je dois m'en tenir. Sauf que dans ma tête, j'ai précisé très peu de temps. Le Ran nous dit que s'il a dit explicitement, « Yasru perot haolam alay leolam », alors là, ça ne marche pas s'il pense « hayom ». Le hayom pensé ne fait pas le poids avec l'olam évoqué. Faut pas qu'il l'ait dit. S'il n'a pas précisé l'olam, alors au lieu de pencher vers la résonance habituelle que normalement, si j'ai pas mis d'échéance, ça veut dire l'olam, eh bien ici, dans ce contexte, le Ran explique le contexte est parlant. C'est comme si lui-même, le contexte, il détermine son intention, il détermine sa parole. C'est comme s'il avait dit hayom. Et c'est pourquoi que ça marche. Bakol, alors la piska, c'est-à-dire le titre de la Gemara, c'est un passage de la Mishnah. On commence ici un passage de la Mishnah sur lequel la Gemara ne s'y rapporte pas. C'est pourquoi ils ont corrigé dans la marge que le passage de la Mishnah sur lequel on se rapporte, c'est Bechamayomrim Nodrin Chutz Mibishvua. Ça veut dire que ça se rapporte sur un passage encore plus haut dans la Mishnah. La deuxième partie de la Mishnah. Mais Chamaï ont dit que oui, on peut utiliser ce procédé à l'aide de Neder, mais pas chez vous. Je vois, c'est trop chamour. Et c'est sur ça précisément que la Gemara se rapporte. Donc toute la suite de la Mishnah qui est mentionnée ici, on va la sauter, c'est à supprimer, comme ça ils ont corrigé. Tout ça, c'est la retranscription de la dernière partie de la Mishnah qui ne nous concerne pas dans la Gemara. Donc si la Gemara se rapporte à plus haut dans la Mishnah, entendons bien que ici dans la Piska, Piska c'est le titre, c'est le passage numéro 2 de la Mishnah. Donc Beit Shammai et Beit Hillel sont partagés, est-ce qu'on peut même utiliser ce même procédé à l'aide de Shevoa pour dissuader le Harag? Maravuna, Tana, Ravuna nous dit que dans une braïta c'est enseigné, Beit Shammai Amrim, lo yiftach lo bishvoa, ou Beit Hillel Amrim, af yiftach lo bishvoa. Beit Shammai dit on ne peut pas initier la démarche de nous-mêmes à l'aide de Shevoa. Et Beit Hillel dit oui. Alors, les Beit Shammai, Bishvoa Udalo Iftachlo, Habeneder Iftachlo, pour Beit Shammai, on voit que parce qu'il y a deux aspects particuliers, d'abord c'est Shevoa, et de plus il s'agit d'initier soi-même la démarche. Alors c'est pourquoi Beit Shammai dit non. Habeneder Iftachlo, ça s'entend que si c'était qu'une histoire de Neder, je veux moi initier la démarche par un vœu et pas par une Shevoa. Oui, il en est parfaitement question d'après Beit Shammai. Mais ça ne correspond pas avec ce qu'on a vu dans la Mishnah. Ve'atnan est pourtant dans notre Mishnah, et c'est justement le morceau de Mishnah qu'on a cité dans la Piska. Beit Shammai omrim, lo yiftach lo ben neder, on ne doit pas initier la démarche du vœu pour dissuader le harag. Donc même quand il s'agit que d'un éder, c'est pas à nous de faire cette proposition. C'est lui qui le propose, d'accord? Sinon, non. Tant pis. Mais tout, et de plus, miftach ou delo yiftach lo bishvua, hamidar neder bishvua. C'est lorsqu'on veut initier la démarche par nous-mêmes et avec le procédé shvua que il ne faut pas. Donc les deux aspects, chamour à la fois, hamidar neder bishvua, mais si vous voulez faire un. Si vous voulez faire sa dissuasion avec, par le procédé d'une chevoie, alors que ce n'est pas lui qui l'a initié, il pourrait. Mais ça ne correspond pas avec la Mishnah. Puisque dans notre Mishnah, Betchama, ils disent Nodrin, mais pas chevoie. Ça veut dire, même si le Hana, c'est lui qui va initier la démarche, il me propose, regarde, tu me fais un éder que ceci, que cela. Pour Neder, ça marche. Mais si il dit, tu me fais une choua que ceci, que cela, non. Donc on voit dans la Mishnah que d'après Beit Shammai, il y a deux chumrot. Dès lors que le procédé, c'est chevoie, on s'abstient. Ou dès lors que le procédé, même de Neder, est initié non pas par le Hanas, mais par moi-même, eh ben, tant pis. On doit rester comme ça et laisser le hara qui va nous prendre, tant pis. Et là, dans la Braïta, hein, c'est pas ce qu'on entend. On voit que quand il y a le cumul des deux aspects, et que c'est par le procédé d'une chevoie que je vais sauver mes biens, et que ça vient de ma propre initiative, c'est là où Beit Shammai refuse. Contradiction double avec la Mishnah. Réponse. Tana matnitin beneder leodiacha kochan de Beit Shammai. Tana Braïta bishvoa leodiacha kochan de Beit Hillel. En fait, le sujet qui est présenté dans la Mishnah et dans la Braïta n'est pas le même, parce que chaque Tana, chaque auteur, il est intéressé à faire ressortir l'un plutôt le chidouche de Beit Shammai et l'autre plutôt le chidouche de Beit Hillel. Selon la Mishnah, on a... Alors, le Tana de la Braïta... Oui, le Tana de la Mishnah, c'est l'avis de Beit Shammai. Que Beit Shammai sont sert dès lors qu'il s'agit d'une chevoie ou dès lors qu'il s'agit d'initier nous-mêmes la démarche, même si c'est par le procédé d'un éder. Tandis que le Tana de la Braïta voulait souligner le chidouche de Beit Hillel, qu'avec toutes les circonstances aggravantes, c'est moi qui va initier la démarche, c'est moi qui fais la proposition. Et en plus, c'est chevoie et pas néder, et tout ça est permis selon Beit Hillel. Alors c'est vrai que c'est un peu trompeur vis-à-vis de Beit Shammai. Ça laisse croire que Beit Shammai interdise que parce qu'il y a le cumul des deux problèmes. Non! Beit Shammai, il l'interdit déjà pour l'un ou l'autre, sans le cumul des deux. Mais vis-à-vis de Beit Hillel, c'était intéressant de resituer leur machloket dans ce contexte pour faire ressortir le chidouche particulier de Beit Hillel, que même le cumul des deux, ça ne dérange pas, c'est permis. Donc il n'y a plus de contradiction.
Kéchan.
Comment?
Kéchan,
Kohan. Kohan de Beit Shammai ou Kohan de Beit Hillel. La force de l'un ou de l'autre, ça veut dire la portée de ce qu'il dit. Que Beit Shammai, ils sont Osrin, quand il y a. Que notre Mishnah veut faire sortir l'histoire de Beit Shammai, que même quand il n'y a que l'un ou l'autre des deux aspects. Et dans la Braïta, on fait ressortir le chidouche de Beit Hillel qui sont tolérants, même quand il y a les deux circonstances aggravantes, cumulées. Maintenant, il s'avère que la Mishnah et la Braïta sont complémentaires. L'une et l'autre se complètent parce que l'une nous a fait remarquer que Beit Shammai, il interdit dès lors qu'il y a un des aspects aggravants et que Beit Hillel... Mais par contre, on ne voit pas dans la Mishnah que Beit Hillel, il est matir quand il y a le cumul des deux. Par contre, la Braïta nous a fait ressortir ce chidouche sans nous faire ressortir l'aspect... Hamour de Beit Shammai, que Beit Shammai sont osrim même quand il y a un seul des deux aspects. Donc Mishnah Braïta sont complémentaires, et ça existe comme ça, des textes parallèles. Mishnah Braïta complémentaires, il n'y a pas de contradiction. Maintenant, la Gemara nous dit que Rav Ashi propose une autre réponse, parce qu'il a une autre lecture de cette Braïta qu'a cité Ravuna. Rav Ashi amar achi katani, Beit Shammai omrim, en shela bishvua, ou Beit Hillel omrim, yesh shela bishvua. C'est une question de principe. Est-ce que quand quelqu'un fait une shevoua, il peut demander à Tarat Nedarim, c'est ça, chez Ella. Sheela, ça veut dire aller demander au Chacham, Sheela Chacham, pour faire Atarat Nedarim. Et le terme de la Braïta Yiftar, Holo Yiftar, ça veut dire rechercher une ouverture pour, ou bien on avait vu cette expression dans le sens de Potrin Lo, ça veut dire que les Dayanim vont initier avec ou Petar ou Harata, deux options différentes qu'on avait vues pour pouvoir annuler le vœu. Donc est-ce qu'on le devance par un pétard ou une harata pour lui faire, en vue de lui faire une atarat nedarim? C'est une manière d'exprimer l'atarat nedarim pour Bet Shammai, non, pour Bet Hillel, lui. Mais Mina Torah, hein, on peut faire chez la Tracham pour une chevoie autant que pour un neder. Sauf que pour Bet Shammai, comme c'est chamour la chevoie, hein, alors les rabbanan ont dit, monsieur, tu as fait une chevoie, on joue pas à ça. On n'efface pas une chevoie, tant pis.
C'est-à-dire que Beth Hillel aussi, enfin, il dit que le vœu il prend, mais qu'il peut y avoir chez la Tracham dans cette lecture.
Alors ça, c'est un sujet indépendant qui n'a rien à voir avec le sujet de notre Mishnah. C'est juste une question de principe. Est-ce qu'une chevoie peut être annulée auprès du Chacham autant qu'un Neder ou non? C'est tout. Mais ça n'a rien à voir avec la chevoie qu'on va faire pour dissuader le Harag ou le Anas. Ouais. Mishnah. Haren etiot ha'ilu kerev korban. Imena niksatzot. Si elles n'ont pas été déracinées, ces jeunes plants d'arbres, c'est ça, des nétiotes, alors je les désigne korban. En réalité, korban, mais un arbre ne va pas sur le misbeyar. Non, l'intention, c'est kadosh, les damaves, que les damim de cet objet servent à financer des korbanotes qui, eux, iront sur le misbeyar. Mais ça veut dire que l'arbre, il a une kedusha. Comme je peux être makdish une table, pour qu'après, avec l'argent, on achète un hola ou un shlamim. C'est un peu l'intention ici aussi. La même chose avec un tali. Talidu korban, imelan isrefet, yesh la npidion. Ce tali, je le désigne comme korban, c'est-à-dire sacré, l'edamav, pour sa valeur. Imelan isrefet, s'il échappe à un feu. Yesh la npidion, ça veut dire avant tout que c'est kadosh. Et comme c'est kadosh, faut les racheter. Et c'est rachetable. Contrairement à la Sefa, on va voir un cas où c'est pas forcément rachetable. Pourquoi on a dit Yeshtein Pidyon? Normalement, on a l'habitude de dire c'est Kadosh, puisque je l'ai rendu Kadosh. Et si c'est vrai, alors d'habitude on dit en un mot Kadosh. C'est quoi? C'est rachetable. Sous-entendu, c'est Kadosh. Alors c'est une formulation qu'il va falloir expliquer. La Gemara est là pour ça, on verra bientôt. Pour l'instant, on laisse comme c'est. Il faut déjà comprendre le contexte. Le contexte, qu'est-ce qu'il cherche à faire? En fait, on verra dans la Gemara qu'on est face à un danger. Il y a une récolte, enfin, il y a des plants d'arbres qui vont y passer. Parce que c'est un moment où il y a une tornade, par exemple, un ouragan. Ou bien un habit, il va y passer, il y a un incendie. Et donc lui, il se dit, comme il va certainement perdre cet objet, ce bien, il le voit déjà disparaître, il se dit, je fais neder. D'accord? S'il est épargné, je le sacrifie. Voilà. C'est ça le sens de son neder. En espérant qu'il soit épargné. Et au moins qu'il soit OK, qu'il soit sacrifié, mais au moins qu'il soit épargné. Alors on verra dans la Gemara un peu plus. Maintenant, Aren etiot ha'ilu korban, autre formulation. Il a dit, voici ces plants d'arbres, je les désigne korban, atik tetsu, jusqu'à qu'ils soient déracinés. Taletzu korban atchetisaref. Ce talit, je désigne korban jusqu'à qu'il soit consumé. En la npidion. Alors là, c'est effectivement kadosh et il n'y a pas moyen de le racheter. On verra encore sur ça des commentaires dans la Gemara qui seront indispensables pour comprendre ce sujet. Je laisse la tâche à la Gemara, bientôt ça arrivera. La Gemara commence par le premier sujet. Velitne kadoshot. On devrait enseigner que c'est kadosh. C'est comme ça qu'on dit d'habitude, plutôt que de me dire il y a moyen de le racheter. Ça sous-entend que ça nécessite un pidyon. Comme quoi, il y a une kedusha. Dis-moi direct, c'est kadosh. Et qui dit kadosh, on peut le racheter aussi. Alors, dans notre version, c'est écrit velitne kedoshot ve en kedoshot. Tosfot et Loran nous disent que la version, c'est uniquement velitne kedoshot. C'est le seul élément dans la question. Au lieu de dire « Yeshlein Pidyon », fallait dire, comme on a l'habitude, c'est kadosh. Les plants d'arbres ou le talit sont kadosh. Pourquoi on n'a pas dit comme ça? Réponse, « Aïdé débaï les mitna seifa » comme on vous l'enseignait dans la fin de Mishnah, c'est-à-dire dans le deuxième cas, « Ena impidion » là-bas, la meilleure chose à dire, c'est que « Ena impidion » Tanana mi recha yesh la impidion. C'est pourquoi, dans la recha aussi, par symétrie, on a dit yesh la impidion. Que veut dire dans la sefa, on a dit ena impidion? Dans la sefa, on pouvait ni dire kadosh, dit Loran, parce que si je disais kadosh dans la sefa comme j'aurais dit dans la recha, à ce moment-là, ça résonne comme si le din est le même. Or, le din n'est pas le même. Puisque dans la recha, il y a moyen de le racheter, alors que dans la sefa, il n'y aura pas moyen de le racheter. Et si je dis que en kadosh, c'est faux, puisque dans la sefa, c'est kadosh. Donc dans la sefa, je pouvais ni dire kadosh ni en kadosh. Qu'est-ce que je pouvais dire? Il n'y a pas de pidyon possible. Sous-entendu, il y a une kedusha. Et le pidyon ne solutionne pas l'objet. Je ne pourrais pas en profiter. Comme on va expliquer bientôt pourquoi. Ce qui fait que comme dans la sefa, la formule c'est en pidyon, alors dans la recha, par symétrie, on dira yesh le en pidyon, comme le Tana a l'habitude de rester avec des expressions qui sont symétriques entre une recha et une sefa. Maintenant, Echinadar, comment a-t-il fait son vœu? La question telle que les Rishonim expliquent, c'est que pour que ce vœu soit effectif, comment l'a-t-il formulé? Si on remarque, il a dit, ces jeunes plants d'arbres, je les désigne Corban, s'ils sont épargnés par... S'ils sont épargnés, s'ils ne sont pas nictatotes, s'ils ne sont pas déracinés, arrachés. Mais c'est évident qu'ils seront une fois arrachés. Les arbres ne tiennent pas éternellement. Tôt ou tard, ils vont être déracinés. Donc, c'est impossible que ce vœu ne se concrétise. Pourquoi tu dis que les perrottes, ils sont kadosh, yeshlein, pidyon? Mais non, puisque forcément, ils seront arrachés, ces arbres. Donc, ça ne peut pas être kadosh. Question. Donc, comment il a formulé le vœu pour que ce soit khal, une kedusha? C'est la question. Amar amemar, beomer, on parle qu'il a dit, mais naniktsatsot ayom, veavar ayom, balonikstetsu. En fait, il y avait un événement particulier ce jour, et il craignait que les arbres soient déracinés. Il a dit, s'ils sont épargnés aujourd'hui, pas ils sont épargnés à vie, il y aura bien un moment où ils vont tomber, ces arbres, même après 120 ans. Mais ça veut dire, si ces arbres, sur une durée limitée, par exemple, aujourd'hui, il y a une tempête, comme on va le préciser. Et il dit, si aujourd'hui, ils sont épargnés de ce phénomène-là, alors je les sacrifie. Ariane Corban. La journée est passée, ils ont été épargnés. Ils auraient pu tomber avec le vent aujourd'hui. Ils ont été épargnés. Donc voilà, le vœu est censé se concrétiser. C'est devenu kadosh. Mais il n'a pas dit, comme on croyait, que Enaniktatot, jamais. Ce n'était pas l'objet de son vœu. Maintenant, Imken Lamali les Memar, demandez-moi dans ce cas-là pourquoi il devait le dire. Ça veut dire tout l'enseignement de la Mishnah perd son sens. Quel est le chidush du coup? C'est évident que c'est un vœu. Il a dit, je sacrifie ce bien s'il est épargné par une tornade. Pourquoi ce ne serait pas un vœu? C'est évident. Ah, excusez-moi, on ne parle pas de épargner par une tornade, on ne le sait pas encore. J'ai avancé ça trop tôt. Mais pour l'instant, on croit qu'il a dit si ces arbres ne sont pas fauchés aujourd'hui, s'ils ne sont pas déracinés aujourd'hui, alors le vœu tel et tel. Ben, le vœu, il doit se concrétiser, pourquoi pas, c'est évident. Marie-douche. Donc si on parle qu'il a fixé un délai de Hayom, c'est évident que c'est un vœu. Réponse, l'otzricha. Ça n'a d'intérêt que dans le cas particulier où il y avait un vent très important. Zika, c'est des vents, Nefisha important. Il y avait une tornade ce jour. Et donc, il y a un chidouch dans le fait de dire que quand même, ça va être assourd par son éder. On va exprimer le chidouch bientôt à la fin du passage. Mais avant ça, la Gemara confirme la Okimta. Et voici qu'effectivement, c'est comme ça que c'est enseigné dans la suite. La même Mishnah rajoute un deuxième exemple. Gabé Talit, à propos du Talit. On l'a retranscrit le même din à propos du Talit qui serait épargné du feu. Vétalit, il serait Fakaïma. Est-ce qu'un Talit était voué au feu, voué aux flammes? Non. Alors pourquoi? Quel est l'objet de son éder? Kegondika Deleka, forcément on doit entendre qu'il y avait là un incendie, et l'habit le voyait déjà partir en fumée, et c'est pourquoi il a fait ce vœu que si l'habit est épargné, je le sacrifie, je le rends korban entre guillemets, comme on a expliqué, c'est-à-dire je le rends kadosh pour que les damim servent à financer des korbanot. Et donc la même chose à Hanamid et Kazika Nefisha. Ça nous donne un indice que pour ce qui est des Netiot, c'est la même chose. C'était dans une situation où les jeunes plants d'arbres étaient en danger. Il y avait du vent très fort et ça menaçait de les arracher. Et il a fait ce même vœu. Donc on est dans un cas où quelqu'un il a un bien qui est menacé. Et il dit, si jamais il est épargné, je le sacrifie, korban, etc. Eh bien, la Mishnah dit, il faut s'en tenir, c'est un vœu. Yesh lahem, pidyon veut dire c'est kadosh. C'est kadosh. Pourquoi tu m'as pas dit c'est kadosh? Et j'entends automatiquement qu'il faut le racheter si je... Oui, mais on a déjà répondu que par symétrie avec la sefa, valait mieux dire yesh lahem pidyon. Mais ça signifie que c'est kadosh. Et c'est quoi le chidouche? Le chidouche zal kadatar, ça nous venait à l'esprit de dire de masi kadate de lomitnatzlan. Que lui, il envisage qu'il ne soit pas épargné. Lui, il s'est dit, c'est perdu d'avance. Je vois une tornade pareille, je vois un feu pareil, j'ai aucun espoir. Ou Michoumari, Canada. Et c'est par désespoir qu'il a fait ce vœu. Mais pas parce que sincèrement, il voulait sacrifier des biens. S'il avait une petite chance de pouvoir les sauver ou de les voir être épargnés, il n'aurait pas fait ce vœu. Donc j'aurais pu penser que ce vœu, il est nul. Kamash malan que si. Si. Ça, c'est pour la Risha de la Mishnah. Maintenant, la Seifa, on avait vu un cas particulier. Il a dit, c'est Netiot, jeune plant d'arbre. Je le rends korban, une fois de plus, c'est le Hekdesh qu'on a défini. Mais il a dit, Hachik Tzetsu, jusqu'à qu'il soit fauché. Ou bien ce Talit, jusqu'à qu'il soit brûlé. Tant qu'ils existent, eh bien voilà, moi je les désigne kadosh. La Mishnah dit, ben effectivement, ils sont kadosh, mais cette fois-ci, enem pidyon, on ne peut pas arracher. Demande la Gemara ou l'Olam, est-ce que à jamais, comment c'est possible qu'il n'y ait pas de pidyon possible jamais? Normalement, quand on est magdish quelque chose, cet objet devient kadosh et il n'y a pas de problème, on peut le racheter. Pourquoi ici il n'y a pas moyen? Le Tana nous dit il n'y a pas la solution du pidyon. Amar Feda, Fedaan chozrot ve kedoshot. Fedaan chozrot ve kedoshot. Adje katsutsu. C'est ça l'idée du Tana. Le Tana voulait nous dire que il a beau les racheter, ça redevient kadosh. Et donc ça ne sert à rien de les racheter. Toi, tu veux les racheter pour les reprendre? Mais non, sache que ça va redevenir kadosh. Et il va refaire la même chose, Pédan, une fois que c'est devenu kadosh, il les rachète encore. Chozrot vekdoshot, ça redevient kadosh. Qu'est-ce qui fait que ça redevient kadosh? Ben, Laura nous dit, parce que cette manière de formuler le vœu, de les désigner kadosh, de les désigner korban en disant jusqu'à qu'ils soient fauchés, qu'ils soient déracinés, ça veut dire qu'il entend les maintenir dans cet état, coûte que coûte. T'as beau le soustraire à cette toucha par un pidyon, oui, mais le vœu, il n'est pas unique. C'est un vœu qui va se renouveler. Parce que tu as désigné l'objet qui doit demeurer kadosh jusqu'à telle échéance. Alors, coûte que coûte, jusqu'à telle échéance, il va le demeurer. Donc, tu l'as racheté, bah, il va redevenir kadosh parce qu'il doit demeurer kadosh. Ce qui fait qu'un pidyon... Par contre, Niktetsu, si maintenant l'échéance arrive, tu as dit jusqu'à qu'ils soient fauchés. Maintenant, ils ont été fauchés. Podan, Pahamachat, Fedayo. Là, tu le rachètes, ça devient Khulin. Et sans plus, ça s'arrête là. Dayo, ça suffit avec ça. Tu as solutionné, il est devenu Khulin. Parce que y a rien maintenant qui va renouveler la Kedusha. Tu as dit, je veux une Kedusha perpétuelle jusqu'à telle échéance. Et passer cette échéance. Voilà, ça y est, ça s'arrête là. Ah, c'était kadosh, fallait le racheter, d'accord, mais tu l'as racheté. Ça, c'est d'après le premier avis Rabbi Peda. Bar Peda. Mais où l'a Amar? S'ils ont été fauchés, on n'a plus besoin de les racheter. C'est bizarre. Ils étaient kadosh, parce que tu m'as dit, même si je les ai rachetés plusieurs fois, la kdusha revient à chaque fois. Maintenant, l'échéance arrive, ils perdent leur kdusha, mais ils étaient kadosh à 5 minutes. Sans rachat, ça va devenir kulin. C'est bizarre. Alors, il faut comprendre que comme il a mis une échéance à la kdusha, eh bien, elle s'arrête, cette kdusha. Mais est-ce que c'est possible qu'on mette une échéance? Quand on venait makdish quelque chose, je dis, voilà, cet objet le rend ekdesh pour un mois. Après un mois, l'objet il est khoulin, sans pidyon, magiquement, est-ce possible? Alors c'est toute une problématique qui sera traitée dans le passage d'après pour demain. Pour l'instant, on a déjà une marloquette, comment comprendre la seifa de la Mishnah, et d'après certains rishonim, Oula est d'accord avec Barpeda, concernant la période avant l'échéance de Hachik Tzetsu. Toute cette période, il a beau le racheter une fois, ça redevient. Il le rachète, ça redevient. Sur ça, il est d'accord. Parce que comme a dit le Ran, ça s'entend qu'il voulait vraiment le maintenir durablement dans cet état de Kdusha. Donc, tu rachètes, ça redevient Kadosh. Sur ça, il n'est pas en marloquez.
Est-ce que ça s'appelle un rachat? Est-ce qu'il doit à chaque fois redépenser l'argent? Enfin, est-ce que ça s'appelle pas un rachat? Et donc, en fait, c'est comme s'il avait
non,
rien fait.
Non. Ça s'appelle un rachat et l'argent est devenu Kadosh à chaque fois. Parce qu'à chaque fois, la Kdusha qui revient sur l'objet, c'est comme si j'ai fait une désignation... multiples. Imaginons que dans ma désignation initiale, il y a comme une désignation multiple. Je rends l'objet Ekdesh pour chaque fois qu'il aurait été racheté. Mais ça s'appelle un pidyon, si bien que l'argent est devenu kadosh à la place de l'objet. Même 3, 4, 5 fois, l'argent est kadosh à chaque fois. Comme ça. Voilà. Chazak Baruch.
Juste... J'aurais bien dit. Oui. Le mood d'aller.